La méditation de ce matin va parler de Jésus-Christ, effectivement, évidemment, avec Jésus-Christ qui a été contesté, rejeté, mais Jésus-Christ qui a été aussi accueilli. Alors, Dieu a un dessein pour son peuple, un plan pour son avenir. La chute de l'humanité au jardin d'Éden a entaché ce dessein, mais Dieu ne l'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié son dessein, c'est-à-dire son plan. Son plan pour son peuple. Ce dessein est en cours de réalisation puisque depuis qu'il a sollicité Abraham dans son pays d'origine, la Mésopotamie, pourtant ce dessein voulu par Dieu est bien plus ancien qu'il n'y paraît de prime abord. Faisons un bond de 1800 ans en avant pour nous retrouver dans la période de Jésus. Voilà désormais un monde bien différent de celui d'Abraham. Du temps de Jésus, la Palestine n'existait pas. Et la Palestine est, du temps de Jésus, sous domination romaine, après avoir vécu multitudes invasions au cours des siècles précédents. Malgré cela, la religion juive, qui se fonde sur la loi de Moïse et les prophètes, demeure sans ombre de variation, semble-t-il, mais dont l'essentiel semble avoir été oublié pour beaucoup, à savoir l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Et voilà qu'on se retrouve dans une scène courante de la Palestine, chez Lévi. Lévi, un collecteur d'impôts. Jésus guérissait des malades, et venait juste de guérir un paralysé couché sur un brancard en lui pardonnant ses péchés. Cela n'a pas plu du tout aux spécialistes de la loi et aux pharisiens. Mais faisait l'émerveillement de tous les autres. Je vous invite à une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 5. Luc chapitre 5, verset 27 à 39. Après cela, Jésus s'en alla et vit, donc après le miracle en question du paralysé, après cela, Jésus s'en alla et vit en passant un collecteur d'impôts nommé Lévi, installé à son poste de péage. Il l'appela en disant « Suis-moi ». Cet homme se leva, laissa tout et suivit Jésus. Lévi organisa dans sa maison une grande réception en l'honneur de Jésus. De nombreuses personnes étaient à table avec eux, et parmi elles, des collecteurs d'impôts. Les pharisiens et les spécialistes de la loi qui appartenaient à leur parti s'indignaient et interpellèrent les disciples de Jésus. « Comment pouvez-vous manger et boire avec ces collecteurs d'impôts, ces pécheurs notoires ?» Jésus leur répondit. « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer de vie. » Certains lui demandèrent, « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, se soumettent à des jeûnes fréquents et font des prières, alors que les tiens mangent et boivent. » « Voyons, leur répondit Jésus, il est impensable que les invités d'une noce jeûnent pendant que le marié est avec eux. Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé. Alors en ces jours-là, ils jeûneront. Et il utilisa la comparaison suivante. Personne ne songe à couper un morceau d'un habit neuf pour rapiécer un vieux vêtement. Sinon, on abîme l'habit neuf. Et les pièces d'étoffe qu'on ira découper jurent avec le vieil habit. De même, personne ne met dans de vieilles outres du vin qui fermente encore. Sinon, le vin nouveau les fait éclater. Il se répand et les outres sont perdues. Non, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Bien sûr, quand on a bu du vin vieux, on n'en désire pas du nouveau. En effet, on se dit, le vieux est meilleur. Alors je vais développer trois aspects de ce texte. Il en existe sans doute d'autres. Mais voici ces aspects. Premièrement, alors je suis désolé pour la grosseur du texte. J'ai pas fait d'essai avant. Mais bon, certains peuvent le lire, ceux devant peuvent le lire, mais je vais le lire également. Jésus est accueilli par le profane en recherche de nouveautés. Deuxièmement, Jésus est contesté par le religieux accroché à l'ancien. Troisièmement, Jésus nouveau et ancien doit être accueilli comme incontestable. Jésus, accueilli par les uns et contesté par les autres, doit être accueilli comme l'incontestable. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, tu t'es approché des gens comme tu t'es approché de nous. Tu as aimé ces gens. Tu aimes autant ceux qui te rejettent que ceux qui t'accueillent. Tu aimes tellement que aussi bien les uns que les autres se tournent vers toi et te suivent. Merci pour l'amour que tu as manifesté alors que tu étais ici-bas. Tu es venu t'approcher de nous. Dieu parmi nous. Tu es Dieu. Et tu as manifesté ton amour aux hommes alors qu'ils étaient dans un bourbier impossible. Merci Père pour ton amour. Amen. Alors premier aspect, Jésus est accueilli par le profane en recherche de nouveautés. Alors nous avons au début de ce passage un choix surprenant de Jésus. En effet, alors qu'il vient de mettre en garde un spécialiste de la loi qui voulait le suivre, nous voyons cela dans Matthieu chapitre 8, versets 19 à 20, un spécialiste de la loi voulait suivre Jésus, mais Jésus ne l'a pas voulu. Voilà Lévi qu'il appelle pour qu'il le suive. Mais qui est Lévi? Lévi est un collecteur d'impôts, nous l'avons vu. Les collecteurs d'impôts étaient méprisés par le peuple à cause de leur collaboration avec les Romains. Nous sommes sous invasion romaine et certains collaborent avec l'envahisseur. Et c'était le cas de Lévi qui collabore avec les Romains, mais il était méprisé aussi à cause des taxes exorbitantes qu'il faisait payer. Lévi est sans doute d'origine juive. Son nom nous permet de le penser, vraisemblablement pas très religieux, voire aucunement, sinon il ne serait pas la botte des Romains, mais il est sûrement lettré pour être péager, pour être au poste de péager. Lévi est un juif lettré. Lévi ressemble à ceux de notre époque qui aujourd'hui se disent chrétiens et ne connaissent pas vraiment Jésus-Christ, ou même, bien que d'origine chrétienne, ne pratiquent aucunement. En quelque sorte, les vies ressemblent à nombre de personnes dans le monde saisissant la moindre occasion de subsistance, même si elle va à l'encontre de leur religion de base. Il ne fait aucun cas de ce que les autres peuvent penser. L'important est sa propre subsistance et son bien-être matériel. Il sait s'adapter aux circonstances sans scrupule ni motivation religieuse. Mais Jésus l'appelle. Comment ce Jésus qui fait tant de miracles dont on entend parler de partout s'adresse à moi et me demande de le suivre? Comment est-ce possible? Mettons-nous un instant à la place de Lévi. Imaginons que quelqu'un d'important, renommé, dont on entend parler de partout, vienne vous dire de le suivre ou vienne vous demander de faire quelque chose pour lui. Que feriez-vous? Nombre de personnes n'hésitent pas à suivre un chef, un meneur d'hommes et de femmes, pour changer de vie et faire autre chose de sa propre vie. Eh bien, c'est ce que fait Lévi. Il se leva, laissa tout et suivit Jésus. Il organisa dans sa maison une grande réception en l'honneur de Jésus. Il fit honneur à son appel. Les mœurs orientales pour le manger et les boire, avec quelqu'un consistait d'entrer avec l'hôte dans une relation de familiarité et de confiance. On peut dire que nous faisons également la même chose lorsque nous invitons quelqu'un. Mais pour quelle raison Lévi laisse tout et suit-il Jésus? Que voit-il en Jésus pour prendre une telle décision? Pour laisser son job? Ce n'est sûrement pas une raison liée à sa religion de base, puisqu'il ne doit pas bien la connaître. Mais que voit-il en Jésus? On peut penser au regard de son opportunisme avec les Romains qu'il fait la même chose avec Jésus. Voilà un personnage nouveau pour lequel plein de gens s'intéressent, qui fait des miracles dont il a dû entendre parler. Il n'hésite pas. Jésus, c'est pour lui un souffle nouveau dans sa vie, d'autant plus que c'est ce Jésus-là qui l'appelle. Jésus, c'est mon ancre, mon chemin, doit-il se dire. Alors pourquoi hésiter? Mais Jésus se serait-il trompé? En demandant à Lévi de le suivre, Jésus lui manifestait sa confiance. « Suis-moi, lui a-t-il dit. » La confiance qu'il n'a pas développée avec le spécialiste de la loi, il l'a faite avec un collecteur d'impôts. Quel paradoxe étonnant. Ce qu'il n'a pas fait avec un religieux, il l'a fait avec un profane. Mais qui est donc ce Jésus? Qui est donc celui qui a appelé Lévi et pourquoi ce dernier a-t-il décidé de le suivre? Lévi a décidé de mettre sa confiance en Jésus sans regarder en arrière et sa vie de collabo et de pécheur notoire. Et bien sûr, autour d'eux, de nombreuses personnes, d'autres collecteurs d'impôts et d'autres pécheurs notoires. Jésus sait bien qui sont ces gens, ce qu'ils font, mais il est fort de constater qu'il est bien accueilli par ce monde. Bien que, soyons-en sûrs, il n'ait fait aucun compromis avec ce qu'il était, le Fils de l'homme, Dieu parmi les hommes. Lévi est devenu l'apôtre Matthieu et le rédacteur de l'évangile qui porte son nom. Jésus est accueilli par le profane qui voit en lui du nouveau un espoir pour l'avenir. Second aspect, Jésus est contesté et rejeté par le religieux accroché à l'ancien. Je n'ai pas encore fait à l'écran. Jésus est contesté et rejeté par le religieux accroché à l'ancien. Alors il semble évident que ce repas n'est pas échappé aux spécialistes de la loi et aux pharisiens. En effet, ils s'indignaient et interpellèrent les disciples de Jésus. « Comment pouvez-vous manger et boire avec ces collecteurs d'impôts, ces pécheurs notoires ?» Comme souvent, ce sont les disciples qui ramassent en premier, n'osant pas s'adresser directement à Jésus. Dans le raisonnement des Juifs pieux de cette époque, manger avec des collecteurs d'impôts, c'était s'associer à eux d'une façon impensable. Les repas étaient un moment de communion important de la vie sociale et religieuse. Et ils se prenaient dans de strictes conditions de pureté. Nous pouvons voir cela dans une demande des pharisiens et des spécialistes de la loi qui ont abordé Jésus en Matthieu chapitre 15, verset 2. « Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres ? Car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. » La contestation est donc forte, car elle s'appuie sur la tradition des ancêtres et des pratiques bien ancrées dans la mentalité des personnes religieuses et soucieuses de bien faire. Mais cette contestation est-elle justifiée ? Est-elle justifiée ou non justifiée ? Est-elle juste ou injuste ? Cela signifierait-il que Jésus n'ait rien compris aux traditions des anciens ? Ces traditions sont-elles réelles ? Non. Ces traditions sont-elles réellement bonnes, voire meilleures que l'attitude de Jésus et de ses disciples ? Où pouvons-nous voir, ici, la confrontation de deux mondes religieux, deux perceptions différentes de la piété ? Alors, s'agissant de la contestation religieuse s'appuyant sur la tradition ancestrale, elle est justifiée et juste. Les repas doivent être pris selon le rite traditionnel et aucune dérogation n'est stipulée. Par conséquent, Jésus et ses disciples enfreignent ce rite et peuvent donc être soupçonnés comme des impies par les Juifs, au même titre que ceux qui prennent le repas avec lui. C'est une règle juive, et ne pas l'appliquer, c'est désobéir à cette règle, et c'est une faute aux yeux des Juifs. Je pense que nous pouvons tous en convenir. Si par exemple je n'observe pas le code de la route et que je me mets à déroger unilatéralement à ces règles, j'enfreins ce code et je commets une faute, voire une faute grave au regard de ce code et aussi des agents qui sont là pour la faire respecter. Globalement, le code de la route est juste car il permet la cohabitation des conducteurs. Sans lui, ce serait l'anarchie sur la route. Le code de la route sauve des vies. De même, dans le monde animal, il y a des règles comportementales. Elles ne sont pas écrites, mais existent par les rapports de force entre les individus et aussi leur importance dans la société animale. Si un individu enfreint une règle, il risque le rejet ou la mort. De même, les Juifs avaient institué des règles de cohabitation au cours des siècles qui devaient être respectées. Pour les Juifs, ces règles sont bonnes en elles-mêmes et pleines de bon sens. Autre contestation. Hey, Jésus, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, se soumettent à des jeûnes fréquents et font des prières, alors que les tiens mangent et boivent. Il est donc manifeste pour nous, pharisiens, que tu ne connais pas bien nos règles et que tu fais ce qui n'est pas permis pour quelqu'un de respectueux de nos traditions. Nous l'avons lu, Luc chapitre 6, verset 36, 5, 36. Personne ne songe à couper un morceau d'un habit neuf pour rapiécer un vieux vêtement, sinon on abîme l'habit neuf, et la pièce d'étoffe qu'on y aura découpée jure avec le vieil habit. De même, personne ne met dans de vieilles outres du vin qui fermente encore, sinon le vin nouveau les fait éclater, il se répand et les outres sont perdues. Non, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Bien sûr, quand on a bu du vin vieux, on n'en désire pas du nouveau. En effet, on se dit le vieux est meilleur. Là encore, la tradition ressurgit dans la bouche des contestataires et masque ce que ceux qui l'appliquent ne voient pas, car la tradition ou les règles peuvent masquer l'essentiel, voire le nécessaire, voire l'amour. L'amour pour le prochain, l'amour pour Dieu. Justement, l'amour que Jésus est en train de manifester à l'égard de Lévi et aussi de ses amis. Et dans ce domaine, nous sommes tous concernés, car nous avons tous nos traditions, notre échelle de valeur, nos références intellectuelles ou normatives. Et nous avons bien du mal à déroger à nos échelles de valeur ou à nos traditions personnelles ou collectives. Nous accomplissons des préceptes tout humains plutôt que de voir l'essentiel et de savoir aimer. Nos pensées et nos raisonnements nous ramènent sans cesse à notre échelle de valeur, solidement ancrée en nous. Notre orgueil de vie sait nous y attacher. Nous ne sommes donc pas meilleurs que le pharisien ou le spécialiste de la loi qui conteste Jésus. Mais nous avons sans doute à reconsidérer ce en quoi nous croyons, ce qui fait notre échelle de valeur, notre tradition. Cela est-il juste ou injustifié? Cela est-il bon ou mauvais? Notre religion est-elle bonne ou mauvaise? Sur quoi s'appuie-t-elle? Ce en quoi je crois est-il juste et bon, ou injuste ou mauvais? Nous devons savoir nous détacher de notre religion pour suivre Jésus. Quelqu'un écrit sur... J'ai pas retrouvé l'auteur de cette phrase. Quelqu'un écrit sur les limites de notre système de référence. Les limites de notre système de référence correspondent aux valeurs, aux idéaux que nous avons toujours défendus. Notre système de référence correspond aux principes qui nous tiennent à cœur et que nous avons parfois de la peine à remettre en question. Quelles sont nos priorités dans notre vie? Ce sont nos traditions, nos préceptes de vie ou bien Jésus? On peut avoir des traditions ou des préceptes, mais sont-elles prioritaires sur ce que Jésus demande? Je vous invite maintenant à un regard récréatif, je dirais, sur une saga bien connue. Tout le monde connaît Star Wars. Non, vous ne connaissez pas Star Wars. Ouais, vous ne connaissez pas les films de Star Wars, cette saga bien connue. Pourtant, qui ne connaît pas Star Wars? C'est film Spielberg, je crois, qui est... Lucas, bon d'accord. Moi, je ne les connais pas bien non plus. Alors, plongeons-nous un instant dans un bref moment d'un des films. Tout d'abord, les acteurs. Luke Skywalker, c'est le héros de ces films, en fait. C'est un personnage qui est en... Dans le texte qu'on va voir, qui est en formation pour devenir un Jedi, c'est-à-dire quelqu'un qui va lutter pour la défense contre la force obscure. Voilà. Luke Skywalker. Et puis le deuxième personnage est Yoda. Yoda. Alors, Luke Skywalker vient de s'écraser sur une planète peu accueillante. Et son vaisseau est embourbé dans un marais. Alors, imaginons un vaisseau de plusieurs tonnes, quand même. Il est embourbé dans un marais. Il y rencontre Yoda, magnifique, sur une planète comme ça. Il y rencontre Yoda. Yoda est le plus sage de tous les maîtres Jedi et a formé un grand nombre de ceux-ci, jusqu'à devenir grand maître de l'ordre Jedi. Yoda demande à Luke Skywalker de déplacer son appareil embourbé, alors appareil de plusieurs tonnes, je précise, et lui demande de le déplacer. Réponse de Luke, déplacer des pierres, c'est une chose, mais mon appareil, c'est différent. Yoda, non, pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Luke, je vais essayer, Yoda. Non, n'essaie pas, fais ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Fin de ce regard créatif. Je dirais comme Yoda, non, n'essaie pas, fais ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Jésus ne veut pas que nous essayions, mais il veut que nous le suivions. Le dire ainsi semble un peu brutal, surtout quand je considère la lenteur que j'ai mise à suivre Jésus. Pardonnons-nous les uns les autres. Voyons-le comme un désir profond de Dieu de nous sauver en suivant Jésus. Le conseil de Yoda est néanmoins plein de sagesse pour avancer alors que nous sommes embourbés dans nos raisonnements et nos principes. Il nous faut désapprendre, nous détacher de ce qui nous fige et nous empêche de voir avec le cœur et de voir selon Dieu. Savoir se détacher de notre religion pour suivre Jésus, désapprendre ce que nous avons appris par des hommes pour suivre ce que Dieu lui-même veut nous apprendre. Jésus est contesté et rejeté par le religieux accroché à l'ancien. Troisième aspect. Alors, il y a une particularité dans le texte de Luc qu'on ne retrouve pas dans les deux autres évangiles synoptiques, à savoir Marc et Matthieu. Il s'agit de la dernière phrase de ce passage, soit le verset 39. Quand on a bu du vin vieux, on n'en désire pas du nouveau. En effet, on se dit, le vieux est meilleur. Cette phrase est énigmatique et on peut en donner deux significations différentes. L'une est la suivante. Excusez-moi. L'une est la suivante. Jésus ferait allusion, peut-être ironiquement, à la difficulté qu'avait son auditoire à accepter la nouveauté de l'Évangile. Cet auditoire préférant la tradition qui est ancienne, ce qui n'est pas faux. Pour l'autre signification, Jésus rappellerait que son ministère, aussi nouveau soit-il, n'est rien d'autre que l'accomplissement du projet divin qui est ancien. Ce qui n'est pas faux non plus. Jésus, nouveau et ancien, doit être accueilli comme incontestable. Jésus est nouveau et ancien. Jésus n'est ni nouveau ni ancien, il est d'éternité. Avant même que le monde ne fût, il est. Avant même que le monde ne fût, Jésus est, car Jésus est Dieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, versets 38 et 8-58, il dit lui-même cela. « En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Jésus est descendu du ciel. Jésus leur dit plus tard, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Cette parole, vous en conviendrez, est déconcertante. Mettons-nous un instant à la place des gens de l'époque de Jésus. Une telle parole est insensée pour le moindre des mortels que nous sommes. Comment peut-il dire cela alors qu'il a à peine 30 ans et qu'il est né dans une famille de Nazareth? Nous connaissons ses parents, son père est charpentier, ses frères et sœurs sont parmi nous. Insensé. Pour en revenir au verset 39, je ne sais pas ce que vous préférez comme vin, le vin vieux ou le vin nouveau? Peut-être les deux. Pour un amateur de bon vin, il n'y a pas photo. Un vin vieux, bien conservé, bien charpenté, avec des saveurs imprégnées du terroir et de la longue conservation en fût, donne un produit sans pareil, remarquable, au regard d'un vin nouveau, souvent immature et plus léger. Que veut dire Jésus quand il dit « on n'en désire pas du nouveau et le vieux est meilleur » ? Alors nous avons vu que les deux significations tiennent la route, mais il reste une équivoque sur laquelle semble jouer Jésus. On ne sait pas ce que son auditoire a compris, mais connaissant le dessein de Dieu pour l'humanité, nous percevons ce que Jésus a voulu dire. Et si nous avons traité juste avant la première signification en montrant ce que la tradition ou la manière de penser de toute humaine peut être dans la vie des gens, je vais maintenant montrer ce que la seconde signification pourrait changer dans la vie de ces mêmes gens. Jésus dit « En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle qui m'a envoyé. Celle de celui qui m'a envoyé. Et en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Jésus est nouveau pour celui qui le voit pour la première fois. Il est nouveau pour Lévi et ses amis, et pour les pharisiens aussi. Pour les uns, c'est par opportunisme, mais pour mieux le connaître, et les autres, c'est par attachement à l'ancien de leur religion qui peut être, qui pour eux est meilleure. Pour les uns, c'est par opportunisme, mais pour mieux le connaître, et les autres, c'est par attachement à l'ancien de leur religion qui peut, pour eux, est meilleure. Il initie certes une nouvelle alliance, mais alors qu'il n'a pas encore été le sacrifice délivrant l'humanité de ses péchés, il est vu comme quelqu'un qui dérange et qui plaît, mais aussi qui dérange et qui déplaît. Jésus est incompris par ceux à qui il s'adresse. Ses disciples, ses ennemis, les profanes, les religieux. Mais pourtant, Jésus va laisser une trace indélébile qui marquera toute l'humanité. Pourquoi ? Parce que Jésus est Dieu. Parfaitement homme, il est parfaitement Dieu et il sait ce qu'il fait. Jésus est le Messie venu dans un contexte bien particulier. Il fait partie du dessein bienveillant de Dieu pour chacun de nous. Alors j'établis ce schéma pour illustrer d'une part le dessein de Dieu, le chemin des nations et celle du peuple hébreu et juif. Ce schéma montre trois flèches différentes. Ça paraît bien, ça va ? Pas trop lisible, enfin. Alors tout d'abord une flèche verte représentant le dessein de Dieu pour son peuple. Une flèche jaune pour le dessein de l'humanité en général, les peuples et les nations, globalement. Une flèche grise tortueuse pour le dessein du peuple hébreu et juif, qui était le peuple de Dieu avec ses éloignements successifs, ses rejets, ses retours, son indocilité, ses rébellions et ses révoltes, comme l'a dit Moïse avant de mourir. C'est ce que nous enseigne l'Ancien Testament, la vie de ce peuple. Peuple de Dieu, mais qui s'est maintes fois éloigné de lui. Pour revenir, pour se rééloigner, pour revenir, se rééloigner. La flèche verte montre en particulier, depuis Abraham qui a quitté son pays pour une nouvelle terre, la terre promise, la constitution du peuple de Dieu, le peuple hébreu conduit par Moïse, la construction du tabernacle où Dieu pouvait résider au milieu de son peuple, la transmission de la loi et des commandements, les prophètes qui sans cesse ont essayé de ramener ce peuple indocile et rebelle dans le chemin que Dieu voulait pour lui, pour eux. La venue annoncée longtemps à l'avance de loin de Dieu, le Messie, Dieu parmi les hommes, le Christ qui devait s'offrir en sacrifice pour le salut des hommes. C'est ce Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Le dessein de Dieu est de se constituer un peuple saint parmi toutes les nations et toutes les langues, pour qu'il puisse habiter avec lui et l'adorer. Jésus a été attendu comme un nouveau roi, mais pas celui qu'attendaient les hommes. Les hommes attendaient un chef politique, comme les anciens rois d'Israël. Il était attendu comme un sauveur, mais pas celui qu'attendaient les hommes. Les hommes attendaient un sauveur qui les délivre du joug romain. Jésus est venu comme roi sauveur. Il est venu pour délivrer les hommes de leurs péchés et non pour délivrer Israël du joug romain. Si cela avait été ainsi, ça aurait été un échec cuisant pour le salut des hommes. Replaçons l'œuvre de Jésus dans le contexte biblique. Jésus, nouveau et ancien, doit être accueilli comme incontestable. Peu de temps après le texte que nous avons lu, Jésus va s'offrir en sacrifice pour les péchés du monde. C'est la volonté du Père qu'il se donne ainsi parce que Dieu le Père veut habiter parmi nous. Et ce que faisaient partiellement et momentanément les sacrifices d'animaux pour pouvoir approcher un Dieu saint, Jésus-Christ le fait parfaitement et définitivement. Le dessein de Dieu pour son peuple n'a pas changé. Je serai votre Dieu, trois promesses. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple et j'habiterai au milieu de vous. Soyons-en sûrs, Dieu veut le faire. Le sacrifice de Jésus permet cela pour tous ceux qui veulent mettre de côté et oublier ce qui les rattache à des préceptes tout humains. L'amour de Dieu pour nous est tel qu'il veut habiter avec nous, mais sa sainteté ne le permet pas sans un sacrifice qui expie les péchés, et Jésus l'a fait. Jésus est incontestablement le sauveur du monde et il doit être accueilli pour cela. Le dessein de Dieu, c'est-à-dire le plan de Dieu dont j'ai parlé au début, est en train de se réaliser. Jésus s'est donné pour moi, pour toi, pour nous, par amour, et pour que nous ayons la vraie vie, celle d'en haut. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2 et verset 9, l'apôtre dit ceci. Mais vous êtes une race élue. Une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous, qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Loué soit Dieu pour cette merveilleuse bonne nouvelle. C'est là ce que Christ a fait pour chacune et chacun de nous. J'ai oublié de préciser tout à l'heure une chose. Vous avez ici des flèches qui montrent ceux qui, en fait, se rallient à ce dessein de Dieu au cours des siècles, aussi bien de toutes les nations et du peuple juif également qui font partie des nations. Loué soit Dieu pour cette merveilleuse bonne nouvelle. C'est là ce que Christ a fait pour chacune et chacun de nous. Je vous invite à prier. Jésus, tu nous connais d'éternité et tu nous convies à te suivre, à t'honorer, à t'adorer comme le Dieu sauveur, le Seigneur de nos vies. Nos fautes nous ont éloignés de toi, mais tu t'es offert en sacrifice pour nous, par amour, parce que tu veux être avec nous, habiter parmi nous, tel que tu l'as voulu à l'origine. Merci pour cette grâce immense. Nous ne méritons pas cela, mais tu l'as voulu. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance. Amen.